Studio Tamani, voici nos informations en français.
18h à Bamako, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Rencontre ce matin entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix et le ministre malien des Affaires étrangères. L'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali et le nouveau mandat de la MINUSMA ont été au cœur des échanges. Le calme est revenu à Ménaka après des tensions survenues entre des jeunes de la ville et les éléments de mouvement armé. Sur place, les forces armées maliennes ont quadrillé la zone et procède à des fouilles sur chaque passant. Le dossier de la rédaction s'intéresse à la consommation du pain. Rares sont les Maliens qui ne prennent pas du pain tous les jours, une habitude que les nutritionnistes déconseillent. Le développement de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Gagne Kanté assure la technique. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix est en visite au Mali. Jean-Pierre Lacroix et le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop ont donné ce mardi matin une conférence de presse conjointe. Les échanges ont tourné autour de l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali et le nouveau mandat de la MINUSMA. Pour le chef de la diplomatie malienne, les Nations Unies ne doivent pas servir de levier pour enfreindre les règles. Adama Amadou Aïdara a suivi la conférence. Suivant son reportage.
Jean-Pierre Lacroix, au cours de cette rencontre, a reconnu qu'avec la mission onusienne, des attentes de la population n'ont pas été comblées. Il assure qu'avec les autorités maliennes, il est prévu de réfléchir à une méthode plus adaptée.
Il y a bien sûr une partie de la population qui est frustrée, mais nous avons aussi des limites, et on en a parlé tout à l'heure de manière très franche. Et comment faire en sorte de repousser ces limites, mieux répondre aux attentes de la population? C'est vraiment un axe central du travail que nous allons faire ensemble avec les autorités maliennes. Peut-être réfléchir à une offre de sécurité mieux adaptée des Nations Unies.
À cette réponse, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la disponibilité du gouvernement malien. Abdoulaye Diop a cependant profité de cette occasion pour faire cas des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Il parle ici de plusieurs irrégularités.
Les contingents ivoiriens sont à Mopti, ils sont à Tombouctou et ils ne sont pas déployés à Bamako. Ce qui est une première entorse. Les équipes nationales de soutien sont prises en charge par le pays qui les envoie. Et dans le cas de figure, on se rend compte que cette force est payée par une partie tierce. Les équipes nationales de soutien ont essentiellement une tâche administrative et une tâche de soutien logistique. S'ils doivent avoir des armes, ça doit être des équipements individuels de protection et non des armes de guerre.
Le ministre Diop précise par ailleurs que ce n'est pas la guerre entre le Mali, la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. Il faut plutôt des nouvelles bases, selon Abdoulaye Diop.
La justice fera son travail. Il y a des règles qui ont été enfreintes. Il faut pouvoir travailler à régler cela. Il ne faut pas que d'autres utilisent les Nations Unies à d'autres objectifs. Nos relations sont beaucoup plus larges, beaucoup plus complexes. Et dans une relation, il y a des incidents qui arrivent, on les gère. Mais ce qui est important, c'est de saisir ces incidents comme une opportunité pour mettre de nouvelles bases.
Cette visite de Jean-Pierre Lacroix, en plus de la médiation togolaise, vise entre autres à dissiper la tension entre les autorités maliennes et ivoiriennes.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La vie reprend petit à petit à Ménaka après un week-end de tensions entre des jeunes de la ville et des combattants d'un mouvement armé. La population commence à circuler dans certaines rues de la ville et certains commerces ont également rouvert ce lundi. Le point de la situation avec Sita Sidibé.
Depuis samedi, les femmes ont quadrillé la ville. La route nationale qui passe au centre de la ville est bouclée tous les matins et les personnes qui l'empruntent sont fouillées ou redirigées vers une autre destination. Il en est de même pour les engins. Certains citoyens ont préféré rester chez eux car le calme demeure précaire. Les messages des responsables communautaires se multiplient sur les médias pour appeler au calme. Dans ces messages, les responsables attirent l'attention sur les relations de bon voisinage et de tolérance qui ont caractérisé l'existence des communautés dans la région depuis des temps immémoriaux. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, a déclaré un leader communautaire sur une radio de la place, avant d'ajouter que notre région est occupée par des groupes terroristes et il ne nous reste plus la ville de Ménaka et une portion au nord. Des dizaines de milliers de familles vivent aujourd'hui ensemble dans cette ville. Nous devons rester soudés contre ceux qui occupent notre territoire et qui nous divisent, ajouter en substance cet autre responsable.
Autre sujet, examen de brevet de technicien santé. Tous les candidats des écoles de santé n'ayant pas d'agrément d'ouverture ont été exclus ce lundi 25 juillet des salles d'examen de brevet de technicien de santé. Cependant, si ces candidats exclus dénoncent aussi qu'ils appellent l'injustice des autorités scolaires, le ministère de l'Éducation indique que le département n'est pas concerné par ces exclusions et son rôle se limite juste à l'organisation des épreuves. Plus de détails avec Draman Maïga.
On ne sait même pas pourquoi on nous a fait sortir en général.
Nous voulons juste examiner. C'est la phrase scandée par plus d'une vingtaine d'élèves et étudiants qui tournaient entre les salles d'examen du centre du lycée Ba Aminata Diallo El Bad. Pour tous ces candidats exclus des salles depuis ce lundi, cette situation est une injustice des autorités scolaires. Ces candidats fustigent aussi ce qu'ils appellent le silence coupable des autorités scolaires qui n'ont rien dit sur ce manque d'agrément jusqu'au jour des examens. Selon une candidate venue des Nioro, les surveillants ont reçu une note du ministère de l'Éducation qui énumère les écoles non éligibles pour cet examen. Cependant, les autorités scolaires jointes par la rédaction refutent cette version. Nous sommes partenaires des écoles de santé et nous leur donnons un appui organisationnel pour la bonne tenue des examens, expliquent les responsables du département. Et nous n'avons envoyé aucune note pour exclure qui que ce soit, a clarifié Kinan Agadeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. L'association qui unit à son sein ces écoles dont les candidats ont été exclus des examens n'a pas voulu réagir sur la question malgré toutes nos sollicitations. Une dizaine d'écoles sont concernées par cette situation. Il s'agit entre autres de l'Institut national des formations Croix-Rouge malienne, de l'école privée de santé de Fana, de l'école de santé Mariam Diarra.
Un programme de coaching et de formation des journalistes dénommé Atelier du reportage a été lancé ce matin à Bamako par la Maison de la Presse. Cette session de 9 mois va réunir autour d'une vingtaine de journalistes, des formateurs nationaux et internationaux. Elle a pour objectif de rendre professionnels les acteurs du métier. Mariam Koulibaly.
Les 9 mois de cours seront axés sur les techniques de reportage, les enquêtes, les portraits, entre autres. Des apprenants de la presse écrite, des radios ainsi que de la télévision sont concernés par cette formation. Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse.
Ce qu'ils vont apprendre pendant les sessions de formation doit être traité au niveau de leurs organes respectifs. Que ce soit radio, télévision, presse en ligne ou journaux, ils doivent essayer de tout mettre en œuvre pour aller faire des productions sur ce qui a été appris pendant les formations.
Nous sommes chanceux d'avoir été sélectionnés pour cette formation parmi tant d'autres. Nous avons plusieurs apprenants. Ils espèrent que cette formation profitera à leurs différents organes.
Il s'agira pour nous de profiter des aînés, de leurs connaissances et tout ce qu'ils ont à nous apprendre.
En réalité, on a beaucoup de lacunes. On ne connaît pas la différence entre un reportage, une investigation.
Les bases du journalisme, les enquêtes, les interviews, comment les préparer, comment mener une enquête et ainsi de suite.
Des journalistes outillés en technique de reportage, des productions de qualité, c'est ce que les formateurs attendent des lauréats.
Je vous l'annonçais dans les titres. Nombreux sont les Maliens qui prennent du pain au repas quotidien, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Selon les nutritionnistes, cet aliment est certes nutritif, mais il peut avoir des méfaits sur la santé par sa consommation excessive et le manque d'hygiène dans certaines boulangeries. Diarra Faskoy s'est intéressée au sujet.
À Bamako, les consommateurs du pain évoquent plusieurs raisons liées à sa consommation. Certains expliquent que la consommation est occasionnelle. D'autres, par contre, affirment que c'est un aliment indispensable.
Le pain, moi, je le consomme 2 fois par jour, le matin et puis le soir.
On le consomme de temps en temps, mais pas à chaque temps.
À chaque fête aussi, on prend le pain pour le mettre dans les macaronis.
Si les médecins trouvent des valeurs nutritionnelles dans les pains, toutefois, ils préviennent de certains dangers, notamment la qualité de la conservation. Docteur Djibril Traoré, nutritionniste.
Le pain est... Il est riche en sels minéraux. Donc, les vitamines là, notamment la vitamine E, ça permet de lutter contre le vieillissement précoce. Les minéraux aussi renforcent le système immunitaire de l'organisme. On ne doit pas dépasser 2 mèches par jour. Et les fabricants aussi doivent respecter les règles de la sécurité sanitaire des aliments.
Certains boulangers reconnaissent effectivement ce manque d'hygiène au sein des boulangeries. Ils avancent certaines difficultés à faire respecter les mesures d'hygiène dans ces lieux. Salif Traoré, boulanger.
Dans notre travail, ce n'est pas facile de respecter l'hygiène à 100%. La majorité des employés n'ont pas la déontologie de ce métier. Il y en a d'autres. On cherche des uniformes pour eux, mais ils ne les portent pas. Parfois, nous-mêmes, on est gênés quand les contrôleurs viennent chez nous, car ils trouvent nos locaux dans un état vraiment pas désirable.
Face à cette situation, les consommateurs préconisent la multiplication des contrôles dans ces lieux pour un respect accru de l'hygiène.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, la conséquence de la consommation des stupéfiants, c'était le thème d'une rencontre organisée hier à Gao. Elle a réuni les élèves maîtres de l'Institut de formation des maîtres de Gao. L'objectif, selon les organisateurs, était de sensibiliser les futurs éducateurs sur les méfaits des stupéfiants et autres drogues. L'activité a été organisée par le mouvement des jeunes patriotes de Gao et financée par l'ONG Orfed et EIREN. Des personnes vulnérables de Samé Plantation dans la commune rurale de Samé Djongo Cercle de Kaya ont reçu divers dons le dimanche 24 juillet dernier. Ces dons sont composés de friperies, des équipements sportifs à la jeunesse et une somme de 300 000 francs CFA au centre de santé. Le geste est de l'association malienne pour l'humanité et la solidarité. L'objectif, selon le donateur, est de contribuer au développement de la commune. Les bénéficiaires ont apprécié le geste. Dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Bonsoir Maria Maïga. Ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le débat?
Bonsoir à Setou Kanté. Le thème central de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir est « Violence basée sur le genre au Mali, comment mettre fin au phénomène ?» Pour en parler, nous avons trois invités, deux experts en genre, Koumbag Ba et Moussa Guindo et Halachi Maïga de l'association Solidaris 223, une organisation d'aide aux victimes de violences basées sur le genre.
Merci et très bon débat. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujetamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Reste à notre écoute. Dans un instant, la question A. Le nombre de consultations a augmenté au niveau des hôpitaux et centres de santé du Mali en cette saison de pluie, ont signalé des médecins et responsables d'hôpitaux. Au centre de santé de référence de Kati, un nombre de plus en plus important de malades viennent chaque jour se consulter pour diverses pathologies. Docteur Louis Traoré, médecin généraliste au CCRF de Kati, explique cette augmentation du nombre de patients dans les services sanitaires par l'impact de la saison de pluie sur la santé. Docteur Louis Traoré répond aux questions de l'Allée Tangara.
Par rapport à la période hivernale, nous avons fréquemment les cas de palus et il y a aussi les infections parasitaires telles que les diarrhées et il y a aussi les infections pulmonaires. On a observé également un nombre plus ou moins élevé de cas de varicelle aussi. Les couches vulnérables par rapport au paludisme, ça c'est les enfants de moins de 5 ans et surtout les femmes enceintes. Donc il y a aussi les personnes âgées.
On peut dire que la saison pluvieuse est une période dans laquelle il y a plus de maladies qui se manifestent.
Oui, on peut dire ça. Palus surtout, qui représente à peu près la grande majorité de nos consultations. Mais et les infections parasitaires et aussi ça c'est des facteurs de gravité. Par exemple, quelqu'un qui fait le palu, qui a un parasite en même temps, il fait un tableau grave. Donc la personne est fragilisée. Donc il y a aussi le problème de nutrition qui se pose chez certains enfants. Quand ils font le palu, c'est vraiment des cas très très graves. La période hivernale, nous on peut dire que c'est une saison qui est vraiment chargée pour nous les agents de santé parce que le taux de consultation, ça peut même quadrupler, je peux dire. Par exemple, on n'a pas moins de 2000 consultations. Bon, en estimation, comme je suis au niveau de la consultation externe, nous avons dans les 2000 consultations par mois pour 4 boxes. Maintenant, en période hivernale, on peut aller jusqu'à 3000, 4000 consultations. Et aussi, les malades hospitalisés sont très fréquents. Maintenant, nous n'avons que 3 hospitalisations. Dans le mois, on ne dépasse pas 10. Mais en période hivernale, on part jusqu'à 300, 400, 600 hospitalisations. Donc, c'est vraiment, ça démontre la gravité de ces pathologies.
Quelles sont les mesures préventives?
Chez la femme enceinte, on donne le SP au cours de la CPN. Ça lui permet de se protéger. La sulfadoxine pyrimétamine, les 3 comprimés qu'on donne aux femmes enceintes lors des CPN. Donc elle doit vraiment respecter ça. Maintenant, dans ces derniers temps, nous avons la chimio, la CPS aussi. Ça, c'est la chimio-prévention contre le paludisme. Mais on l'applique chez les enfants de 3 mois à 5 ans. Donc on donne ce médicament en période hivernale. Il y a aussi l'utilisation des moustiquaires imprégnés et aussi l'hygiène en famille. Éviter les eaux stagnantes au niveau de la cour. Ça va, nous, les agents de santé, nous faciliter la tâche et les parents auront moins de dépenses aussi.